15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie d'être à vos côtés, vous qui nous écoutez ce vendredi, pour une émission toujours en partie consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Et pour m'aider à vous répondre, bien sûr, il est là, lui aussi, tous les jours, en direct de chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, nous commencerons par interroger le docteur Jean-François Thébault, vice-président de la Fédération française des diabétiques. Nous ferons un point avec lui sur la fragilité ou non des personnes diabétiques vis-à-vis du coronavirus. D'ailleurs, avec le début du déconfinement, il était essentiel que ces patients soient très prudents en termes de protection. Alors quelles sont justement ces précautions qu'ils doivent prendre et surtout les bonnes habitudes à conserver plus que jamais, car le virus circule toujours, rappelons-le. Ensuite, vous le savez, dans son rendez-vous désormais, la seconde partie de l'émission est consacrée au bien-être. Dans ce but, nous recevrons une nouvelle fois Léonard Anthony. Il est praticien en hypnose et spécialiste de la gestion de la fatigue, qu'elle soit morale et ou physique. Dis donc, aujourd'hui, je suis fatiguée, je crois, moi. Il va nous prodiguer tous ses meilleurs conseils. Donc, ça tombe bien, comme toujours, pour nous remonter, nous aider un peu à remonter la pente après ces 2 mois de confinement assez fatigant pour tous. Vous avez remarqué, surtout pour moi aujourd'hui. Alors, pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre psychanalyste, qui va aujourd'hui répondre aux questions d'une femme qui a la sensation d'avoir perdu son mari depuis qu'il a lui-même perdu sa maman il y a plusieurs mois.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone. Docteur Jean-François Thébault, bonjour.
Oui, bonjour. Je vous remercie beaucoup de donner la parole aux patients.
Eh bien, c'est tout à fait normal, c'est notre rôle également. Alors, vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. On va commencer par ce coup de gueule, peut-être, que vous avez poussé le 6 mai dernier. Moi, j'ai reçu un communiqué en ce sens. Si je ne me trompe pas, pour les patients diabétiques, vous avez demandé, vous exigez à ce moment-là qu'ils soient tous approvisionnés en masques et remboursés, évidemment, pour cela. Est-ce que c'est le cas depuis le 6 mai ou pas ?
Ben absolument pas. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui même saisi en urgence la Haute Autorité de Santé pour qu'elle inscrive l'évaluation des masques en dispositif générique sur la liste des produits et prestations remboursables. C'est-à-dire que ça puisse être remboursé sans reste à charge par l'assurance maladie dans le cadre d'une délivrance en pharmacie.
Et pourquoi c'est pas le cas encore aujourd'hui ? C'est ça que je comprends pas, parce que les diabétiques, est-ce qu'ils sont dans la liste des personnes à haut risque déjà ou pas ?
Alors, les diabétiques sont dans la liste des personnes à haut risque, mais ça dépend de quel âge et quelle catégorie. Vous savez, le diabète n'est pas une maladie uniforme, malgré un nom identique pour tout le monde, et le risque n'est pas le même en fonction du type de diabète que l'on a. Une très importante étude française qui vient d'être publiée, l'étude Coronado, qui est la plus grande étude qui porte sur les conséquences du Covid sur les patients diabétiques, plus de 1300 personnes diabétiques hospitalisées en réanimation ou décédé, a montré que les risques étaient très très différents suivant le type de diabète que l'on a. Ce sont les personnes hommes, les plus âgés, après 60 ans, mais ça croît progressivement avec l'âge, qui ont un diabète avec plutôt de type 2, essentiellement, près de 90% des patients avaient un diabète de type 2, avaient une surcharge pondérale et avec des complications. Alors que les jeunes diabétiques de type 1, les enfants en particulier, ne sont que très peu atteints de formes sévères. Donc on voit que c'est le risque d'attraper le Covid n'est pas plus important chez un diabétique que chez un autre, mais chez une certaine catégorie de patients diabétiques, le risque de faire une forme sévère, voire létale, est très important.
Docteur Thébault, je vais vous passer la parole au docteur Jimmy Mohamed.
Alors, comment ça s'est passé, justement, le confinement pour les patients diabétiques ? Est-ce qu'ils ont eu des difficultés particulières, comme les autres patients chroniques, à être suivis par leur médecin en cabinet de ville, avec un risque de complications que ça implique par la suite ?
Alors, il y a nous sommes attachés à la Fédération française des diabétiques à plusieurs éléments de suivi. Le premier a été celui, dans l'urgence, de s'assurer qu'il y avait un bon approvisionnement de tous les médicaments, de tous les dispositifs qu'utilisent très fréquemment les patients diabétiques, les glucomètres, les pompes à insuline, les tubulures, et afin de prévenir une éventuelle pénurie. Il y a eu des cas peu important par, en fait, sur surstockage de certains patients ou de certaines organisations. Mais en fait, ça, on a pu le contrôler. Le deuxième point, c'est mettre en place une assistance pour conseiller les patients avec des lignes d'écoute au niveau de la Fédération française des diabétiques qui sont faites par des bénévoles actifs qui permettent de répondre quotidiennement à des dizaines de questions et d'interrogations sur ce qu'on peut faire, ne pas faire, comment faire ceci, comment faire cela, comment joindre son médecin, l'urgence des traitements, puisque les diabétiques, vous le savez, ont des traitements à prendre quotidiennement et des examens à faire régulièrement. Donc on a géré tout ceci avec la Société francophone du diabète qui nous a servi d'interlocuteur en permanence.
Et de ce côté-là, ça a l'air d'être, ça a été à peu près stable. Enfin, la situation a été bien gérée, j'ai l'impression, hein, de ce que vous dites.
Ça a été à peu près stable, bien géré. Hormis le fait qu'on s'est aperçu, on le savait déjà à la suite des études chinoises, mais on l'a vu, qu'un patient diabétique a deux fois plus de chances d'être hospitalisé qu'un patient non diabétique, et quand il est hospitalisé, bah, il a trois fois plus de chances de décéder qu'un patient non diabétique qui n'a pas les facteurs de risque. Donc c'est ça qui nous a incité à multiplier les alertes sur l'absolue nécessité de pratiquer les gestes barrières, de pratiquer le confinement quand on était à risque et de faire extrêmement attention. Voilà.
C'est pas forcément le diabète en soi, si je comprends bien, docteur Thébault, c'est pas forcément le diabète en soi qui rend plus vulnérable, mais c'est aussi les complications autour du diabète. Les patients diabétiques, ils sont souvent en surpoids. C'est ces choses-là à côté qui augmentent le risque, finalement, non, j'ai l'impression, et pas la maladie en elle-même.
C'est un ensemble de fait. Le premier critère, c'est l'âge. Le deuxième critère dans l'étude, c'est la surcharge pondérale. Le troisième critère, c'est les complications du diabète, c'est-à-dire les complications microvasculaires ou macrovasculaires. Et le quatrième critère, c'est des pathologies associées. Voilà. En plus, pratiquement les deux tiers des patients décédés sont des hommes. Bon, ça restera à expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a, un profil du diabétique à risque et qui n'est pas du tout chez le diabétique de type 1. Il faut rassurer les parents, absolument, les pédiatres l'ont dit hier, mais il faut absolument rassurer les parents, les enfants diabétiques de type 1 ne risquent...
Donc les enfants n'est pas concernés par ce surrisque. Docteur Jimmy Mohamed.
Et pas plus concernés par la maladie de Kawasaki. Il n'y a pas de diabétique dans les enfants qui ont eu la maladie de Kawasaki.
C'est noté. Docteur Jimmy Mohamed.
On a reçu un pédicure podologue il y a quelques jours qui déjà nous disait qu'avec la réouverture de son cabinet, craindre de gros dégâts sur les pieds de certains malades diabétiques qui se seraient négligés. Est-ce que vous confirmez cette impression qu'il a eue ?
Oui, ça c'est un des problèmes qui s'est passé dans l'accès aux soins. Il y a eu beaucoup de ruptures d'accès aux soins, et notamment sur ce qui concerne les podologues et la surveillance des pieds diabétiques. Vous savez, il y a plus de 8000 amputations par an liées au diabète. Et ces patients sont suivis avec des plaies. Oui, et ces patients sont suivis par des pédicures podologues, mais les consignes pour les pédicures podologues, qui n'avaient pas de masque au début et pendant la période de confinement, ont été de fermer leur cabinet. Donc le Conseil de l'Ordre et les syndicats de podologues ont mis en place un certain nombre de centres de soins d'urgence, qui étaient pratiquement tous hospitaliers, mais déjà, d'abord, ils n'étaient pas nombreux, ensuite, ils étaient assez submergés par d'autres problèmes, et puis troisièmement, parfois, ils pouvaient être très éloignés du lieu de domicile du patient, ce qui fait que l'accès a été difficile. Et effectivement, nous redoutons maintenant que les pédicures-podologues qui vont revoir les patients non traités depuis deux mois découvrent un peu des catastrophes.
Donc n'importe quel diabétique avec une plaie un peu suspecte au pied, il faut absolument consulter en urgence les cabinets. On rouvre. Docteur Thébault, on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, votre émission Santé revient. Aujourd'hui, on parle des précautions particulières pour les patients diabétiques dans ce contexte de crise sanitaire. Et les diabétiques sont très nombreux, on le rappelle, hein, c'est 5% de la population française. On en reparle juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le docteur Jean-François Thébault. Vous êtes vice-président de la Fédération française des diabétiques. Docteur Thébault, je me demandais aussi, est-ce que vous craignez pas qu'en cette période d'épidémie, donc on a eu un long confinement très long, on l'a tous subi évidemment, est-ce que vous craignez pas qu'on soit passé à côté aussi finalement de nombreux nouveaux diagnostics chez des enfants ou chez des adultes de diabète? Parce que finalement, des diabétiques qui s'ignorent, il y en a beaucoup en France.
Vous ne pensez pas si bien dire. Hein. On pense qu'il y a environ 400 à 500 000 personnes qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. On parle des diabétiques de type 2. Quant au diabète de type 1 chez les enfants, la révélation est souvent brutale. Donc on ne passe pas à côté. Hein. C'est d'un seul coup des accidents graves. Autant chez l'adulte, le diabète de type 2, c'est très insidieux sur de long terme. Autant chez l'enfant, quand il se révèle, ce sont des crises violentes avec des risques de coma et les parents ne passent pas à côté. Les signes,
comment
par exemple,
on voit d'ailleurs que son enfant, on peut suspecter un diabète quand même. Vous dites que c'est brutal, mais juste pour que les parents qui nous écoutent aient une idée, comment on peut penser au diabète chez son enfant, c'est quoi les signes?
Il y a trois signes qui sont très, très typiques. L'enfant se met à faire pipi très souvent. Il peut même refaire pipi la nuit alors qu'il avait arrêté. Il a très soif et il perd du poids. Ces signes-là, simples, doivent alerter les parents, c'est pas normal. Un enfant qui n'urinait plus, qui n'avait plus d'énurésie, comme on dit, qui faisait plus pupé au lit, et puis qui a 7 ans, 8 ans, et qui se remet subitement, c'est pas normal. S'il a soif, s'il a perdu du poids, ça fait partie des signes. Dans l'étude Coronado, il y avait quand même près de 3% des patients chez qui le diabète a été découvert au moment de l'hospitalisation. Donc, ils ne se savaient pas diabétiques. Voilà.
Donc, c'est un vrai problème et qui existait déjà avant l'épidémie de coronavirus, finalement. Docteur Jimmy Mohamed.
Cher confrère, j'ai constaté que malgré tout, en visite, les gens respectaient le confinement et en particulier les diabétiques ou les gens qui ont des pathologies chroniques. Et malheureusement, ce confinement est synonyme de grande sédentarité. Or, c'est plutôt mauvais et très mauvais, notamment pour le patient diabétique. Reprendre une hygiène de vie, une activité, c'est nécessaire.
Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, on a essayé de mettre en place des webconférences sur l'exercice physique, sur l'alimentation. Paradoxalement, on voit deux catégories de patients. Il y a des patients pour lesquels, finalement, le confinement, ça leur a plutôt réussi. Ne serait-ce que parce qu'ils auraient équilibré leur alimentation, plus de restaurants, plus de sorties avec les copains, moins de repas, etc.
C'est vrai que ça peut avoir des bons côtés.
Ouais. Et on a pas mal de patients diabétiques qui nous disent avoir maigri. C'est mon cas d'ailleurs. Hein. Moi, j'ai perdu près de 3 kilos pendant le confinement.
On vous félicite, on aurait bien aimé faire comme vous.
Voilà, alors que la moyenne des Français semble avoir
plus de 2,5 kilos.
Oui, ouais.
On est plutôt dans l'autre moyenne avec Jimmy. Ouais.
Ouais. Voilà, un certain nombre aussi ont conservé une activité physique. Alors, les personnes jeunes, elles sont sorties, elles avaient le droit de sortir, bien sûr, comme nous aussi d'ailleurs, faire le footing ou l'exercice autour de chez soi. Mais sinon, faire des exercices physiques chez soi, on a beaucoup recommandé. Moi, à titre personnel, j'ai acheté un vélo d'appartement, je ne savais pas, ce qui m'a permis de reprendre mon activité, l'équivalent des 10 000 pas journaliers que je m'astreins à faire. Donc, ce qui nous préoccupe plus, c'est des pathologies qui n'ont pas été découvertes parce qu'il y a eu un retard au diagnostic. On l'a vu dans les formes graves avec les infarctus. Hein. Les patients qui arrivent à l'hôpital avec des infarctus sont des infarctus beaucoup plus graves qu'avant parce qu'il y avait une confusion sur les symptômes, douleur thoracique, dyspnée, est-ce que c'est le Covid, est-ce que c'est autre chose. Et puis tout un tas de pathologies qui n'ont pas été prises en charge parce qu'il y avait une rupture des parcours de soins. Il y avait une très grande difficulté de contacter son médecin, qu'il soit généraliste ou spécialiste. Et nous redoutons beaucoup l'apparition ou la découverte de pas mal de pathologies quand les patients vont retrouver enfin le chemin des cabinets.
Ouais. Docteur Thébault, quels seraient vos conseils, on va dire les plus simples et les plus pratiques en tout cas, à ce stade on est donc déconfiné, le virus circule toujours. Pour les diabétiques, donc la consigne c'est quoi? C'est le masque toujours dehors? Enfin, quelles sont vraiment les principales consignes pour se protéger pour cette population-là?
Alors, deux choses. Vous avez déjà sur des sites officiels, vous avez le site maladiecoronavirus.fr dans lequel vous avez un algorithme qui est en ligne pour évaluer son déconfinement. C'est très bien fait. Malheureusement, ça ne concerne pas spécifiquement le diabète. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait une application qui soit plus retournée sur le diabète. Mais ça vous permet déjà de vous situer dans quelle situation vous êtes, que vous soyez actif, travaillé, retraité, avec diabète ou pas. Je conseille vraiment cette application qui est très bien faite. Sinon, les mesures barrières et des masques. et des masques de qualité. C'est pour ça que nous demandons que ces masques soient vendus en pharmacie, enfin délivrés en pharmacie.
Pour les diabétiques.
Parce que, oui, pas, mais en fait, c'est pas seulement pour les diabétiques, c'est pour toutes les personnes. Oui, les personnes qui sont susceptibles, voilà, fragiles. Parce que il y a que les pharmaciens qui sont capables de s'assurer de la.
Que c'est un bon masque, de la, oui, bien sûr.
Que de la qualité, que c'est une norme CE dispositif médical, que la provenance, qu'ils ne sont pas périmés, etc. On a vu que les grandes surfaces qui peuvent distribuer des masques de qualité extrêmement illégale et non contrôlée. C'est pour ça que nous demandons que ce soit fait en pharmacie.
Dernière question, docteur Jimmy Mohamed.
Docteur Thébault, premier week-end de déconfinement, les gens, est-ce qu'ils peuvent, les diabétiques, revoir leurs proches, organiser des dîners en famille, en tout cas ceux qui ne sont peut-être pas âgés, ou est-ce que c'est trop risqué ?
Écoutez, c'est assez simple. Si la famille a été très raisonnable et qu'elle n'a pas de signe de Covid, aucun signe de fièvre, etc. Si, comme c'est le cas, par exemple, moi, avec mes enfants se sont bien confinés avec les petits-enfants. Ils vont venir me voir. En revanche, il se trouve que ma fille est médecin, mais elle est en congé maternité. Mais si.
Et vous allez embrasser les enfants, justement, parce que vous êtes un grand-père aussi, alors
non,
cette question-là, elle est posée.
Non,
voilà, c'est
on
ça.
On garde une petite distance, surtout avec les enfants qui vont encore en collectivité. Mais enfin, la plupart des enfants, là, ils sont confinés, eux aussi. Hein. Ils n'ont pas vu de copains, les pauvres. Et donc, quand on est à peu près certain du fait que les mesures ont été respectées pendant la période du confinement, il n'y a pas de danger maintenant. Le danger, il va commencer maintenant. C'est avec le déconfinement. C'est ça.
Mais en prenant de grandes précautions, normalement, c'est possible. Et le social, les rapports sociaux, c'est important aussi de retrouver sa famille et ses proches.
C'est très important. Moi, je tenais à vous remercier. Ça fait des années que j'écoute votre émission et je la trouve vraiment très bien. Tous les deux, vous faites un couple formidable et je suis vraiment ravie à chaque fois de l'écouter. Merci beaucoup.
Et moi, je suis ravie de vous retrouver parce que je vous ai connu il y a très longtemps, au tout début de ma carrière. Je vous ai souvent interviewé en tant que cardiologue. Merci beaucoup, docteur Thébault. C'était un plaisir de vous entendre à nouveau. Merci, au revoir.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles nombreuses que vous nous laissez tous les jours sur le répondeur d'Europe 1. Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et donc, Jimmy, à présent, on va passer aux questions de nos auditeurs, aux questions d'Europe 1, aux questions des auditeurs d'Europe 1 qui nous ont laissé donc sur le répondeur le 39-21. On va commencer par la question de Monsieur Poutière. On l'écoute.
Je vous appelle concernant sûrement une xième ou une millième question sur les masques. J'ai l'impression qu'il y a une confusion qui s'installe. Pour moi, les masques dits chirurgicaux, ceux que tout le monde porte, servent à éviter la propagation du virus. Mais j'ai l'impression que maintenant, on croit que ça sert à se protéger. Est-ce qu'il y a eu des variations depuis qu'on a donné ce message, il y a 2 mois ? Voilà, bon, c'était pour avoir donc effectivement une demande de précision. Merci, au revoir.
Alors, docteur Jimmy Mohamed, qu'est-ce qu'on peut répondre à Monsieur Poutière ?
Oui, il n'a pas tort. À la base, les masques chirurgicaux, ceux que les chirurgiens peuvent utiliser au bloc opératoire, c'est pour éviter de contaminer le malade au travers de gouttelettes. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ces masques ont malgré tout une capacité de filtration au-delà de 90% de petites particules qui font moins de 5 microns. Ce qui veut donc dire que vous êtes quand même un petit peu protégé. Mais l'idée du masque, et surtout des masques en tissu, vu que les masques en chirurgicaux, tout le monde n'y a pas accès, c'est d'avoir une protection collective. Plus nous sommes nombreux à mettre un masque et plus nous allons nous protéger et finalement le masque que vous mettez va protéger les autres et puis si la personne en face d'elle fait la même chose, et bien vous serez protégé. C'est une protection un peu réciproque, une forme de protection collective. On a beaucoup parlé de l'immunité collective si 60 ou 70% de la population aurait le coronavirus, donc il y a un peu des deux. Même si, effectivement, normalement, c'est pour éviter de rendre les gens malades.
Alors, donc, c'est pour protéger les autres et pas soi, on est d'accord, hein, plutôt.
Exactement, mais ils vous protègent quand même un petit peu. Ils ont une capacité de filtration. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus efficaces que de mettre un simple masque en tissu que vous allez prendre avec un morceau de chaussette, vu qu'ils sont normés, ceux utilisés, vendus en pharmacie ou les masques chirurgicaux. Donc, c'est beaucoup de protection des autres et aussi un petit peu quand même pour vous.
Très bien, bah écoutez, c'est très clair. Jimmy, on va répondre à une autre question. Celle-là, elle nous a été envoyée par Nathalie, qui est enceinte, nous écrit-elle, de 7 mois. Elle demande, Jimmy, si les femmes enceintes peuvent se déconfiner avec les mêmes libertés que le reste de la population, si c'est autorisé d'une part, et prudent surtout.
Non, c'est pas vraiment prudent. Le troisième trimestre est considéré comme un haut risque par le Haut Conseil de Santé Publique pour les femmes enceintes. Donc on recommande d'éviter les transports en commun, d'éviter les visites extérieures. On évite forcément tout risque de contamination. Et on a une étude récente de l'Imperial King College et de l'Université d'Oxford qui ont étudié la plus grosse cohorte de femmes enceintes, 430 femmes enceintes, comparées à des femmes enceintes mais qui n'avaient pas eu le Covid. Eh bien finalement, elles ne font pas tant de formes graves, mais celles qui sont hospitalisées et celles qui sont vues le plus souvent, c'est celle au troisième trimestre.
Oui,
ça veut donc dire qu'il faut malgré tout respecter les gestes barrières. Et dans cette étude, peu d'accouchements prématurés. Les données, celles-ci, sont rassurantes. Mais attention, une étude vient en contredire une autre d'une semaine à une autre. Donc voilà, soyez prudents. Et pour l'instant, peut-être que ça ira mieux dans 2 mois. Soyons prudents et soyons vigilants. Elle a 7 mois, elle n'est pas loin du terme. Inutile de prendre des risques superflus.
Oui, et puis moi je rajouterais même qu'il faut vraiment faire très attention au troisième trimestre parce qu'on est très très proche finalement du jour J, donc ça serait bête d'être contaminé vous ou votre conjoint parce que les règles pour l'accouchement notamment ont été assouplies, et donc si vous voulez avoir une chance que le papa puisse rester avec vous, ben justement l'idéal c'est que vous soyez tous les deux en pleine forme le jour J, donc protégez-vous vous et vos proches. Alors on va prendre une autre question Jimmy qu'on a reçue au 3921, c'est celle d'Elena, on l'écoute tout de suite.
Une question concernant les retrouvailles des amants adultères. Ça peut paraître idiot, mais je m'apprête à retrouver mon amant. Je ne sais pas si j'oserais avoir un contact physique avec lui, sachant qu'il retourne dans sa famille et que moi j'ai également la mienne et que j'ai peur du coup qu'on puisse transmettre quelque chose à nos proches en reprenant notre relation. Voilà, merci.
Alors Jimmy, on va répondre à Elena. Vous en pensez quoi des retrouvailles avec contact physique? De fait, puisque bon, c'est son amoureux, son amant, tout dépend de qui ils vont voir ensuite. Enfin, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller?
Bah, elle a la réponse dans sa question. Elle sait évidemment que si son amant ou même elle, on va recommencer à revivre, c'est-à-dire qu'on va repartir travailler. Le docteur Thébault le disait très bien. Là, pour l'instant, il y a peu de risques vu que le virus circule peu. On a été confinés, mais dès lors qu'on va reprendre des transports en commun, qu'on va être en contact avec du monde, il est évident qu'on peut attraper le virus, être porteur asymptomatique. On peut mettre en période d'incubation et transmettre la maladie et par la suite transmettre le virus à vos proches. Donc il y a un risque. Après, à vous de savoir si vous voulez le prendre à la fois pour vous et aussi pour les autres. Mais c'est peut-être pas l'idée du siècle. Je pense qu'il faut temporiser sans donner de leçons à personne.
Bien sûr. On va prendre une dernière question. C'est celle de Jérémy qui vit dans l'Aisne et qui nous a écrit la chose suivante. Jimmy, il nous demande si certains traitements homéopathiques pourraient apporter une aide pour traiter le Covid ou même prévenir l'infection. Bon, Jimmy, j'ai une petite idée concernant votre réponse, mais allez-y.
Écoutez, je pense que l'homéopathie sera peut-être aussi efficace que le bisou magique ou que du sucre ou qu'aucun autre traitement, aucun placebo. L'homéopathie, j'aimerais bien qu'on montre une seule étude qui montre une efficacité dans n'importe quelle pathologie. Alors on aura toujours.
Là, on parle du Covid. On parle du Covid.
Voilà, on aura toujours quelqu'un pour dire que c'est
formidable. On relance pas la polémique
COVID,
sur l'homéopathie.
Non.
Oui, oui.
Non, mais bon, si on peut, voilà. Bon, en tout cas, non, sur le Covid, absolument pas. Et d'ailleurs, à ce jour, on parle de l'homéopathie, mais aucun traitement n'a fait preuve d'une quelconque efficacité. On a des pistes, énormément de pistes, mais rien n'a été prouvé. Et je pense que pour l'homéopathie, soyons honnêtes, on en trouvera jamais.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Merci.
15h 16h sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Et aujourd'hui, nous allons écouter les bons conseils d'un habitué de Sans rendez-vous, Léonard Anthony. Il est expert en hypnose notamment, mais il a plein d'autres cordes à son arc pour nous faire du bien. Avant ça, place à la musique sur Europe 1 avec un chanteur qui a fait beaucoup lui aussi pour aider les Français à se faire du bien pendant le confinement, faire du bien à leurs oreilles avec plein de lives gratuits génialissimes. C'est le chanteur M, ça s'appelle « Crois au printemps ».
Du temps de nos confinements, j'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Si les jours reviendraient des voyages et des...
battu des jours de nos confinements. J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment si les jours nous rendraient plus aimés, plus aimants. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
C'était très chouette, non? Moi j'adore en tout cas. C'était M sur Europe 1, son morceau intitulé « Croix au printemps ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors à présent, nous allons passer à la partie bien-être de cette émission. Et pour cela, on accueille tout de suite en ligne Léonard Anthony. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors, on ne vous présente plus, Léonard, hein. Vous êtes un habitué, je vais dire, de l'émission, ça c'est sûr. Vous êtes quand même, je vais quand même vous présenter pour les nouveaux qui arriveraient aujourd'hui. Vous êtes praticien en hypnose et spécialiste de la gestion de la fatigue. Léonard, je crois savoir que vous, ça y est, vous avez repris physiquement vos séances, enfin, vos consultations dans votre cabinet. Qu'est-ce que vous voyez? Vos patients, ils sont dans quel état à la sortie de ce confinement?
Eh bien, paradoxalement, il y en a beaucoup qui sont fatigués. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, de rester enfermé, j'irais même jusqu'à dire, a priori, de ne rien faire. On croit que les gens ne faisaient rien, mais en réalité, beaucoup travaillaient de chez eux. Beaucoup devaient gérer leurs enfants de la maison. Et gérer ses enfants en faisant la cuisine et en travaillant en même temps, c'est beaucoup plus fatigant finalement. C'est ça qui revient très souvent que de prendre les transports et de revenir et de se reposer. Et donc ça, c'est un premier point. Les gens sont, un, fatigués. Et deuxièmement, ils sont assez anxieux de l'avenir. Beaucoup de gens s'interrogent sur comment ça va se passer dans l'immédiat, comment ça va se passer après-demain, et est-ce qu'il y a un futur comparable à celui qu'on a connu? Voilà les questions qui reviennent tout le temps.
Docteur Jimmy Mohamed.
Oui, parce que finalement, ce déconfinement, on l'attendait avec impatience, mais finalement, on n'a pas fêté ça comme le Nouvel An ou comme Noël. Finalement, c'est pas si évident que ça de se déconfiner.
Ben oui, c'est-à-dire que vous avez raison. On se posait tous la question de ce qu'il allait y avoir un feu d'artifice, quoi. Je veux dire, c'est comme la libération sur les Champs-Élysées. On a à boire et on s'embrasse tous. Et ben là, Jimmy, vous avez raison. On s'embrasse pas. On se serre même pas la main. On se serre même pas la main. Donc, le paradoxe est là. Et donc, il y a forcément une frustration parce qu'on s'attendait à quelque chose. Et il n'y a pas ce mouvement. Et donc, il va falloir apprendre à vivre avec cette histoire, à vivre avec une nouvelle notion à laquelle on n'est pas habitué, c'est l'incertitude.
C'est vrai que le déconfinement, ça sonnait un peu comme liberté, de nouveau retour à plein de choses qu'on n'avait plus le droit de faire. C'est vrai que moi, par exemple, je n'ai pas changé d'habitude depuis lundi. Je suis toujours en télétravail parce qu'à Europe 1, on a décidé de refaire revenir les présentateurs et les journalistes progressivement. Et depuis lundi, finalement, rien n'a changé. Je n'ai même pas vu d'amis. Bon, le problème, c'est que j'ai même refusé les opportunités de les voir. Est-ce que c'est normal d'avoir un sentiment de solitude encore plus important, justement, pour ceux qui sont restés un peu confinés, hein, quand même?
Ah, Mélanie, vous mettez le doigt sur un problème essentiel. C'est-à-dire que c'est comme un oiseau qui est en cage, vous voyez. Quand on ouvre la cage, ben, l'oiseau, il ne s'envole pas tout de suite. Il met un certain temps avant de sortir. Parce que la liberté retrouvée n'est pas si facile que ça à acquérir et à s'approprier. Ça, c'est un premier point. Vous avez raison, même moi, je vous avoue que je sors à tâtons. Vous savez, c'est presque, on se demande, est-ce que ce monde est sûr? Et la première chose, c'est d'accepter cette situation, de se dire qu'on va avoir besoin aussi d'une transition individuelle pour pouvoir, après 2 mois de confinement, se dire « c'est pas un claquement de doigts ». Alors, il y a des gens pour lesquels ça va plus vite que pour d'autres, donc il faut accepter sa propre temporalité. Ça, c'est un point capital. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir aussi accepter ses frustrations. Parce que On avait l'impression qu'on allait pouvoir s'éclater, s'amuser à nouveau, aller au bar, au resto, etc. On voit que c'est plus compliqué. Et puis, il y avait d'autres choses qu'on avait envie de faire. Et puis, on se rend compte aussi que tout d'un coup, ben, comme vous le décrivez, on n'est pas en train de faire même ce qui serait possible de faire. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je ne sors pas plus me promener maintenant que j'ai le droit d'aller me promener un peu plus? Eh bien, parce que tout votre système cognitif, votre corps, a besoin de se réhabituer à quelque chose avec lequel il s'est, eh ben, il s'est distendu, il a pris de la distance, il n'est plus en lien. Donc, soyez indulgent avec vous-même.
Bon, très bien. Jimmy.
Et cette solitude, qu'on peut ressentir, comment est-ce qu'on peut faire pour en faire un atout?
La première des choses que je répète sans cesse, c'est quand on sent cette solitude-là, il faut aller à sa rencontre. Vous voyez, toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter, qui réfléchissent sur la question de la solitude, voire certains qui se sont auto-confinés, dans d'autres moments, c'est une démarche très différente que celle d'aller vers un confinement individuel, de se dire, bah, tiens, je vais faire une retraite méditative, par exemple. Eh bien, c'est de se dire, je vais prendre un temps pour aller à la rencontre de moi-même. Et c'est ça, aller à la rencontre de sa solitude. Parce que si je vais à la rencontre de moi-même, et vous avez plein de propositions différentes, alors vous allez vivre totalement différemment cette solitude-là. Et ça, c'est fondamental. Encore une fois, ne luttez pas contre la solitude. Essayez de ressentir ce qui se passe, essayez d'entrer en relation avec elle pour pouvoir complètement changer votre rapport à la solitude qui vous est imposée. Vous voyez, la notion, elle est là.
Tout à fait. Léonard, l'OMS a annoncé cette semaine que le coronavirus allait peut-être jamais disparaître. Comment on fait pour rester optimiste avec ce genre d'annonce, sachant que du coup, on est quand même dans l'incertitude. Et l'incertitude, ça peut engendrer des tensions. Vous la ressentez, vous, chez les patients, éventuellement, la colère, la tension, justement, de cette incertitude?
Je la ressens déjà, à commencer par moi. Je ne sais pas comment c'est pour vous, Mélanie, mais je pense que la première chose, c'est de se dire, tout change tout le temps. Un jour, on nous dit, mettez pas de masque. Après, on nous dit, il faut mettre des masques. Et puis après, vous voyez, quand on est un peu pris dans un maelstrom. On nous parle de vaccin. Puis après, on nous dit, c'est pas sûr. Et là, l'OMS, qui est une instance importante, nous dit, peut-être va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus. Mmh. Évidemment, tout de suite, on a quand même une sensation d'angoisse face à ça. C'est pas très rassurant. C'est dit, donc là, le monde de demain, c'est le monde avec le coronavirus. Ça veut dire quoi? À vie? C'est ça qu'ils sont en train de nous dire.
Actuel, donc la première des choses. Masqué, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est intéressant. Vous marchez dans la rue,
sans
vous voyez
bise, des gens avec des masques partout. Sans serrer les mains. C'est vrai que ça fait peur, tout ça, le manque de contact physique.
Eh oui, parce que ça, c'est un autre point qui est important. Je pense qu'il faudra qu'on y revienne. C'est comment est-ce qu'on fait pour vivre sans contact physique, en réduisant autant le contact physique? Mais la première chose, c'est que vous avez raison, c'est un point capital. C'est source d'angoisse, c'est source d'inquiétude. Et pourquoi? Parce qu'on est à une époque de notre vie où on a tellement l'habitude d'avoir des réponses à tout. Vous voyez, vous prenez votre téléphone portable, vous dites « Ok Google, Siri s'il te plaît, et Alexa chez vous », et tout le monde, les machines vous répondent. Donc on est entré dans l'ère de « Eh ben, je pose une question, j'ai la réponse tout de suite ». Et là, tout d'un coup, on nous dit « Eh ben, on ne sait pas ». Donc il va falloir explorer quelque chose chez chacun d'entre nous qui est totalement inhabituel, c'est d'accepter l'incertitude comme une composante de l'existence, comme une composante de notre vie. Et encore une fois, de ne pas lutter contre, c'est-à-dire de ne pas dire « Non, 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 mais moi je voudrais savoir. Je veux savoir, je veux qu'on me donne une réponse. » Et personne ne peut vous donner une réponse aujourd'hui. La science cherche, la science sonde, la science explore, les médecins se battent, les chercheurs se battent. Mais nous, en attendant, nous devons accepter cette temporalité-là. Nous devons accepter l'incertitude et apprendre à cohabiter avec pour pouvoir justement continuer à exister. Sinon, nous allons nous épuiser à vouloir quelque chose qui est inaccessible.
Léonard Anthony, on va s'arrêter quelques minutes, faire une petite pause. On n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à écouter tous les bons conseils de Léonard Anthony qui nous détend, qui nous fait toujours du bien dans son rendez-vous. On va parler un peu de notre dépendance aux écrans avec lui juste après, qui s'est encore accentuée chez certains depuis l'épidémie. Léonard va nous donner des pistes pour essayer de nous en détacher tranquillement. Restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est toujours en ligne avec nous, lui aussi, Léonard Anthony. Vous êtes praticien en hypnose et spécialiste de la gestion de la fatigue. Léonard, autre conséquence de cette pandémie, elle a accéléré, c'est vrai, notre dépendance aux écrans avec le télétravail, puis les Zooms, Netflix, Disney+, les soirs chez Jimmy Mohamed, cette surdigitalisation. Est-ce que c'est un problème?
Oui, c'est un problème à plein de niveaux, et en particulier, j'aimerais aborder un point aujourd'hui, c'est celui des émotions. Vous voyez, j'ai beaucoup réfléchi pendant ces dernières semaines à cette question, et j'ai noté que nos émotions, encore si on se réfère à l'étymologie latine, on va retrouver la notion de mouvement. et motion, motion, comme en anglais, motion design, motion, mettre en mouvement. Et donc, quand on passe beaucoup de temps sur des écrans, déjà, on est sédentaire, à part dans des cas extrêmes, mais vous allez avoir de moins en moins de mouvement, et de petit plus est, vous allez vous laisser absorber par l'émotion que vous impose celui qui poste un contenu sur un écran, ou celui qui va solliciter votre attention, et les développeurs d'applications sont très forts là-dessus, ils savent exactement comment driver et diriger nos émotions et provoquer certaines choses. Or, votre intuition et votre capacité à imaginer est de plus en plus inhibée par les écrans. Pourquoi ? Parce que vous êtes pris par une émission très forte, vous regardez, vous parliez tout à l'heure une série sur votre téléphone portable ou sur votre écran, et bien vous allez choper l'émotion qu'on va vouloir vous faire ressentir. Mais vous écoutez la radio, vous écoutez de la musique, vous lisez un livre, votre imaginaire va faire appel à d'autres facultés parce que vos yeux, votre vue n'est pas encore une fois complètement omnibulée par ce que vous voyez. Donc vous allez ouvrir votre plan cognitif, vous allez ouvrir l'ensemble de vos capacités à sentir une situation. Et donc la première chose que je voudrais vous dire, c'est là, toujours, la lutte est perdue d'avance. Je ne suis pas contre les outils technologiques, ni le téléphone portable, ni les écrans. Au contraire, je m'en sers tout le temps. Mais diversifiez votre portefeuille, j'allais dire, culturel, de mise en relation avec les autres, de mise en relation avec le monde. Donc ça peut être d'un livre ou simplement de pouvoir être avec quelqu'un, puisque maintenant le déconfinement nous ouvre cette possibilité de pouvoir être avec quelqu'un, avec les, bien sûr les prudences qui vont de mise et que vous rappelez régulièrement. Mais renouer avec le vivant, renouer avec l'ensemble de ce que la vie nous propose, nous permet de remettre notre imaginaire en mouvement et donc de ne pas rester complètement focalisé là-dessus, parce que c'est vrai, on enchaîne des zooms, on enchaîne beaucoup de choses, ça fait partie de notre vie d'aujourd'hui, on ne peut pas le nier, mais il n'y a pas que ça. C'est ça qui est
je suis d'accord avec vous. Moi, c'est un peu la seule chose que je me suis accordée, je veux dire, depuis le déconfinement. Je me suis remise à ouvrir des livres parce que j'y arrivais pas, en fait, tout simplement. On était bloqué par tous ces flux d'actualité autour du coronavirus. Et il m'a fallu 8 semaines pour arriver à réouvrir des bouquins. Donc ça fait partie des choses qui font effectivement du bien. On sent qu'on a besoin de sortir, de se déconfiner des écrans, en tout cas. Oui. Adini Mohamed.
Léonard Anthony, on parle beaucoup du monde de demain. Qu'est-ce qui va réellement changer selon vous? Certains disent rien, d'autres qu'on va vivre une révolution peut-être extraordinaire et peut-être apprendre à ralentir le rythme et passer peut-être plus de temps auprès des nôtres et se rendre compte que le bonheur, c'est pas simplement avoir beaucoup d'argent et travailler, c'est peut-être avoir la santé et vivre en paix avec soi-même et les autres.
Vous posez une question centrale. La vraie question est, et c'est le sujet qui doit occuper nos hommes politiques, je pense, mais aussi chacun d'entre nous, c'est de savoir est-ce que ce qui nous arrive ne doit être qu'une chose que nous devons subir, ou est-ce que, comme dans toute histoire de l'humanité, mais toute histoire de l'individu, y compris dans nos difficultés les plus complexes et les plus pénibles, nous ne devons pas essayer de regarder à l'intérieur quel est le champ des possibles qui peut s'offrir à nous. Vous êtes médecin, vous le savez bien, quand quelqu'un vient vous voir avec une maladie chronique et durable, elle peut soit s'enfermer dans la maladie et ne plus en sortir, soit alors apprendre à vivre avec pour que la vie ne s'enferme pas autour d'elle et au contraire qu'elle continue à lui ouvrir un pan et des perspectives. Pour moi, ce qui nous arrive là est la même chose. Nous avons vu qu'en nous confinant les êtres humains, la nature s'est déconfinée. Les oiseaux se sont bien chantés, on parle que les abeilles se sont reproduites plus vite dans les grandes villes. Donc il y a un vrai champ des possibles là-dessus. Et au niveau des individus, je crois que nous avons tous découvert un autre rapport au temps. Même si nous courions après le temps, nous avons découvert une chose, et c'est ce que j'ai pu noter chez beaucoup de gens qui sont venus me voir ou qui m'ont appelé, c'est que la temporalité a changé. On s'est rendu compte qu'on pouvait commencer à décider du temps. C'est-à-dire que le temps ne filait pas uniquement. On ne cherchait plus à tuer le temps, à tuer les heures, mais qu'on pouvait s'approprier le temps pour pouvoir en faire une possibilité. Beaucoup de gens parlent de la crise de la quarantaine, de la crise de la cinquantaine. Eh bien, tout d'un coup, les gens se sont dit, eh ben, je peux peut-être maintenant commencer à décider de ce que je veux faire de ma vie. Et je crois que l'opportunité que nous ouvre cette crise, c'est que nous allons pouvoir nous pencher sur cette question-là, individuellement, parce que ça commence au niveau de chacun des individus, et l'ensemble de ces sommes fera certainement un cristal sur lequel la société pourra se pencher, s'appuyer pour construire une société différente que celle qu'il y a eu hier. Repartir comme si de rien n'avait existé, rien n'avait été, serait, à mon avis, louper un rendez-vous avec l'histoire de l'humanité.
Merci beaucoup, Léonard Anthony. On va terminer sur ça. C'était très beau. Merci d'avoir été notre invité, de nous avoir fait du bien, comme toujours. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre approche, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Fatigue et si on apprenait vraiment à se reposer » chez Flammarion. Merci encore, Léonard.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter de la musique avec ce titre tiré de la BO du film La La Land. C'est Another Day of Sun.
C'était, vous l'aurez reconnu si vous avez aimé le film, le titre Another Day of Sun, tiré donc de la BO du film La La Land.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle rentre à tout de suite dans ce studio en ligne avec nous, Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. J'ai hâte de vous retrouver vraiment tous en studio. Ça sera bien quand je pourrai dire vraiment, elle entre dans le studio. Là, elle entre dans le studio
exactement.
Virtuellement. Catherine Blanc,
virtuel.
Hein, c'est vrai, on a hâte de se retrouver, nous. Hein, en tout cas, les auditeurs, on ne les a jamais quittés, mais nous, on aimerait bien se retrouver. Alors, Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Sandra parce qu'on continue à recevoir beaucoup de questions. Pour vous. Sandra nous dit la chose suivante. Mon mari a perdu sa maman durant cette épidémie de coronavirus. Il en est très affecté, c'est tout à fait normal. Néanmoins, cela fait plus d'un mois que nous n'avons pas eu de rapport sexuel. Pensez-vous que cette épreuve soit la cause de son manque de désir? Alors Catherine, bon, quand on perd un être cher, je sais pas, moi ça me paraît à peu près normal, non, que la libido soit affectée comme tout le reste, quoi. Il faut faire le deuil, c'est un temps nécessaire.
Oui, alors c'est pas automatique. Hein. Parfois, faire l'amour est une façon justement de nier la mort et d'être dans la vie plus que jamais, ou d'être dans l'affirmation du besoin de l'eau, du besoin de tendresse, au moment où justement la tendresse concernant ceux qui nous étaient chers disparaît, puisqu'ils disparaissent, ils partent. Ceci étant, évidemment que dans ce cas précis, on peut se dire que perdre sa mère, c'est perdre sa maman, c'est se retrouver l'enfant en deuil. Parce que quand nous perdons nos parents, quel que soit notre âge, il y a quelque chose de l'enfant qui perd le parent. Et parce qu'on a bien fait pourtant la preuve de notre compétence à être adulte, notre compétence à faire sans nos parents. D'ailleurs, parfois on rechigne même à aller les voir trop souvent. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, mais on a notre vie à soi, etc. Et tout d'un coup, c'est une chose de ne pas aller les voir, mais c'est une autre chose d'imaginer que ils ne seront plus jamais là. Et évidemment, on revisite tout notre passé, on revisite notre enfance. Et donc, sans doute que son mari est actuellement dans ces visites, même s'il n'est pas dans le chagrin exprimé, il est dans son temps d'enfance. Or, on n'est pas en train de faire l'amour quand on est enfant. On n'est pas dans le désir, justement, sexuel, puisqu'on ne se vit pas du point de vue de sa position d'adulte. Donc, effectivement, c'est tout à fait normal. Et pour chacun, ça prend un temps un peu différent.
Il n'y a pas de règles. Docteur Jimmy Mohamed.
Mais si ça dure trop longtemps, est-ce qu'il faut consulter? Est-ce qu'un mois, c'est un délai acceptable? À partir de quand, justement, il faut se dire, bon, bah, il y a peut-être, non pas un souci, mais un besoin d'aide?
C'est compliqué de dire quel est le délai. Je crois que Dans notre société moderne, on a tendance à penser que on doit tourner les pages, on doit passer à autre chose, on doit toujours aller de l'avant, que être dans le chagrin, oulala, c'est dangereux, c'est de la déprime, oulala, c'est la preuve de la fragilité. Regardons les religions, nombre de religions proposent un délai de deuil où on portait le noir, où on était dans la prière, où on était dans le souvenir. Dans certaines religions, c'est presque un an pour avoir fait le tour de ce deuil. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas actif, mais où on ne se proposait pas des choses de façon presque niant le réel de la mort et où très tranquillement on passait à autre chose entre l'héritage de nos parents, quand je parle d'héritage, pas d'argent, mais bien sûr de culture, de perspective, et ce qu'il faut laisser justement de côté pour écrire sa propre vie et ne pas simplement s'inscrire en celle de ses parents défunts. Donc c'est très difficile de décider à partir de quand. Je crois qu'il faut simplement voir quand est-ce que notre vie bascule. Si elle bascule, qu'on ait du chagrin est une chose, mais si on n'est plus apte à être en lien avec les nôtres, si on n'est plus apte à travailler, si on n'est plus apte à trouver des moments de sourire et de joie pendant trop longtemps, oui, il faut pas rester là-dedans, parce que le mort est mort, mais il ne nous emporte pas avec lui dans sa tombe.
Catherine, on imagine que du côté du conjoint, puisque c'est Sandra qui nous écrit, il peut y avoir certes une petite frustration. En même temps, c'est quand même hyper délicat de se plaindre dans cette situation, puisque, je veux dire, il faut respecter ça. Enfin, un mois, c'est très court quand même.
Bien sûr, et elle n'est pas la rivale d'une maman qui tout d'un coup est mise en avant, parce que ce qui se passe, sa frustration, c'est évidemment vient du fait qu'elle sent l'amour d'un fils pour sa mère ou pour son père, enfin qu'importe, mais en tout cas et du coup le sentiment qu'elle est quantité négligeable. Mais l'amour évidemment est pluriel, on aime les gens, mais parfois il nous faut du temps pour, on est tout à notre amour, tout à notre désir, et à ce moment-là on délaisse un peu notre entourage. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, et il y a des moments on est tout à notre chagrin, donc on délaisse un peu notre entourage, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Donc il faut laisser du temps, et puis il faut peut-être en parler, peut-être pas parler de comment on va s'en sortir, mais parler de ce parent défunt, parler des souvenirs qui reviennent, et même s'il y a des larmes, offrir ses bras pour consoler même un adulte qui a l'air d'un grand dadé, tout fort et tout musclé, qui tout d'un coup est tout fragile, parce que c'est aussi là-dedans que se tissent des qualités de lien.
Jimmy, une dernière question.
Est-ce que vous avez quelques astuces pour qu'elle puisse retrouver, enfin en tout cas que son mari retrouve le désir, ou au contraire il ne faut pas forcer les choses et attendre tout simplement?
Oui, alors on va éviter de jouer à l'infirmière au sens érotique du terme. On va éviter de jouer à la maman, puisqu'elle est irremplaçable. Mais plutôt, effectivement, être le bon duo, la compagne de vie, animée de joie, de rire, pas faux bien sûr. Et puis quand il y a du pleur, eh bien oui, pleure, je suis là. En fait, c'est accueillir le pleur et amener des propositions de vie, mais pas pour tirer la couverture à soi. Pour
la sexualité peut attendre un petit peu quand même, hein, dans un temps de deuil comme ça.
Bien sûr, la sexualité peut attendre, bien évidemment.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr lundi à 15h. Vos questions au 39-21 sont toujours les bienvenues. Vous avez vu, on y répond tous les jours. C'est 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et à présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.